Audiolib présente Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, lue par Clément Bresson. Qui est in Caelis? Prologue. La terre frémit sous leurs pas lourds. Ils se hâtent de cette lenteur presque hypnotique des grands corps épuisés après une journée de labeur, interrompue bien avant l'heure quand l'enfant est venu. Ils vont côte à côte, l'homme et le cheval, puant l'un et l'autre la sueur séchée sur leur peau rugueuse. Le premier essuie la poussière qui fait du gris sur son front, et l'autre secoue la tête pour se débarrasser des mouches. L'enfant marche devant, se retourne pour les attendre. Il ne dit rien, mais tout dans son attitude trahit son impatience. Il aimerait qu'il se presse, que l'homme que l'on appelle Eugène le Fort soit aussi rapide que le vent. Il voudrait que le puissant cheval s'élance et se jette, et les emmène sur son dos, parce que là-bas, Aélis, ou est-ce Ambre, il ne sait pas, lui a répété d'une voix de terre « Va vite, dis-lui que c'est grave !» Et l'enfant a couru à s'en déchirer la poitrine. Au bord du fleuve, il a hélé la passeuse avec des cris qui ressemblaient à des rugissements. Il a trépigné sur le bac, couru encore, tout juste le pied posé sur la rive. Il a traversé les bois, croisé quelques hommes voûtés par-dessus les champs qui lui ont montré une direction d'un bras là. Il a cherché au bord des forêts sombres la silhouette de l'imposant cheval doré, ne s'est arrêté qu'à ses pieds. Là, il a délivré son message d'urgence et Eugène, aussitôt, s'est empressé de défaire les traits de la bête, abandonnant le tronc qu'il débardait au milieu d'une clairière. L'enfant alors a pensé qu'il rentrerait comme avait dit la maîtresse de maison. Vite, très vite. Pourtant, les deux êtres qui le suivent avancent à pas pesants. De longues enjambées engourdies et interminables, le poids de la journée ne leur permet pas mieux, à l'homme et au cheval. C'est ainsi. Eugène, en son cœur, hurle cependant qu'il arrive, hurle qu'on l'attende. Il ignore pourquoi l'enfant est venu, qui n'a rien expliqué, seulement Caelis, ou est-ce Ambre, l'a envoyé en pleurant d'un ordre impérieux, « Va vite, le malheur est tombé sur nous. » Et lui, Eugène, à pas grand et lent, calé sur ceux du cheval, avance vers ce malheur. Son premier réflexe a été de saisir l'enfant à l'épaule en tremblant. « Mes fils !» L'enfant l'a regardé sans comprendre et Eugène s'est repris. Ses fils, à cette heure, travaillent au champ, sur les terres qu'ils ont en fermage. Ses fils ne sont pas à la maison. Sur la rive du fleuve, l'ancienne les guette. L'enfant a prévenu qu'il reviendrait bientôt. Elle a placé la barge à l'endroit où le cheval peut embarquer. Jéricho pèse 800 kilos et l'embarcation bouge lorsqu'il s'engage sans hésiter. L'ancienne a beau le faire passer chaque matin et chaque soir de la moitié de l'année depuis 8 ans, elle dit une fois encore en se tournant vers Eugène, « Garde-le immobile. » Eugène ne répond pas, ne répond jamais. Les mots de l'ancienne ne sont que routine. Une main sur l'encolure du cheval, il observe la vieille qui remonte la traille, poignée par poignée. Tous les nerfs bleuissant son visage et ses bras maigres sous l'effort. Et il pense aussi, comme chaque matin et chaque soir de la moitié de l'année depuis 8 ans, que c'est de la folie de laisser le bac à cette femme-là. Qu'elle n'a plus l'âge. Sur ce point, tout le monde chuchote. Tout le monde s'accorde à dire que le câble retiendra le bac quoi qu'il arrive. Mais elle, l'ancienne, finira par crever, attirée comme ça sur ses muscles, avec les veines qui dessinent des sentiers sinueux et gonflés à ses tempes grises, et les rauquements qu'elle arrache à ses brassées gagnés une à une, les paumes brûlées par la corde. Tout le monde en parle et personne ne bouge. Ce sera ainsi tant qu'il n'y aura pas d'accident. Cela les arrange que la vieille s'occupe du bac puisqu'il n'y a plus de pont. Le pont, Eugène s'en souvient. Il a été détruit quand il avait 10 ou 12 ans, et c'est une volonté des habitants de